À Tire-d'aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mahler en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, on découvre ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette sixième chronique, Frédéric Mahler nous parle du printemps. Une saison qui marque le retour progressif des espèces migratrices, la reprise des champs, la défense des territoires et la formation des couples. C'est aussi, pour les ornithologues, le moment de reprendre une activité bien particulière, rechercher les indices de nidification des espèces présentes dans leur secteur. Autrement dit, contribuer à la mise à jour des atlas des oiseaux nicheurs de leur région. Alors, écoutons tout de suite À Tire-d'aile, saison 1, épisode 6, Les atlas des oiseaux nicheurs, une chronique de Frédéric Mahler de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Bonjour à tous. Le printemps officiel commence le 21 mars, le printemps météorologique le 1er mars. Pour les ornithologues, il commencerait presque le 21 décembre. Au solstice d'hiver, en effet, les jours commencent à rallonger et pour les oiseaux, l'augmentation de leur durée a une influence décisive sur leur activité. Elle provoque la reprise de la production des hormones et de l'activité des organes sexuels et donc de toute leur activité reproductrice. Si la météo s'y prête, dès janvier-février, on les entend chanter de plus en plus, ce qui signifie qu'ils reprennent possession de leur territoire, souvent approximativement le même que l'année précédente. Au parc parisien que je fréquente régulièrement, les grives musiciennes ont repris dès janvier leur poste de chant habituel. Les rouges-gorges et troglodytes sont aussi parmi les plus précoces. Comme le plus discret grimpereau des jardins, un petit oiseau brun au bec arqué, qui grimpe, d'où son nom, le long de l'écorce des arbres pour y rechercher sa nourriture. Les mésanges charbonnières et bleues, ainsi que les merles, s'y mettent rapidement, suivis de peu par les pinsons. En mars, les quelques fauvettes à tête noire, Pouillot véloce et rouge queue noire, qui sont restés sur place, sont rejoints par leurs congénères qui ont préféré passer l'hiver autour de la Méditerranée, et cela renforce leur ardeur à chanter. Il y a d'un coup plus de concurrence pour les territoires. Quand le territoire est trouvé, en général par le mâle, il faut former ou reformer le couple. Pour cela, en plus du chant, on peut assister à des parades nuptiales, parfois très élégantes. Même le banal pigeon de ville fait sa cour à sa femelle en étalant généreusement sa queue et gonflant les plumes de son cou, tout en tournant autour d'elle en roucoulant. Ces parades, si madame a consenti à ses avances, se terminent par des accouplements, en général assez brefs, mais parfois un peu acrobatiques. On se met aussi en quête de sites favorables à la construction d'un nid, une cavité ou un nichoir pour une mésange, un buisson touffu pour un troglodyte, un arbuste pour un merle ou une fauvette à tête noire, ou une cavité dans un mur pour un moineau ou un rouge-queue. Beaucoup d'espèces sédentaires construisent leur nid en mars et on peut voir les deux membres du couple transporter activement herbes et brindilles, mousses et lichens en un va-et-vient incessant. Certaines espèces commencent même à pondre et à couver, comme les perruches et les pics qui sont assez précoces. Pour l'ornithologue qui essaye de trouver les espèces qui se reproduisent dans son secteur, on parle d'espèces nicheuses, ces activités, chant, transport de matériel, parade, accouplement, sont autant d'indices que l'espèce niche, ou au moins tente de nicher, dans cette zone. Il serait difficile et très chronophage de trouver tous les nids des oiseaux, et en plus cela pourrait gêner leur reproduction. C'est donc en utilisant ces indices de reproduction qu'on peut déterminer quelles espèces peuplent un secteur et avec quelle densité. En particulier, c'est très utile quand on veut faire l'atlas des oiseaux nicheurs d'une région ou d'une ville. Qu'est-ce qu'un atlas quand on parle d'oiseaux ? Il s'agit d'établir les cartes de répartition de chaque espèce nicheuse, en général en ayant dessiné un quadrillage régulier, par exemple des mailles d'un kilomètre de côté. On détermine ainsi la liste et les effectifs des espèces qui nichent dans chacune des mailles. Cela demande de parcourir tout le long de la saison la maille dont on est chargé et de noter toutes ses observations. En fin de saison, on peut faire une récapitulation qui dira combien de couples, de quelle espèce, ont niché dans votre maille. En rassemblant les résultats de tous les observateurs, on peut établir les cartes recherchées et donner un tableau global de la vie faune d'une région ou d'une ville. C'est un travail qu'on a fait dans Paris Intramuros il y a 20 ans, puis à l'échelle du Grand Paris il y a 10 ans, et que nous avons recommencé l'an dernier pour une troisième période de 4 ans de travail sur le terrain, pour une publication espérée en 2029-2030. Mais à quoi peut servir un tel travail ? Tout d'abord à réaliser la grande variété d'oiseaux qui vivent en ville. Si je vous pose la question « combien d'espèces d'oiseaux nichent dans Paris ?» mis à part ceux qui vont répondre « il y a que des pigeons et des moineaux », je pense que la plupart d'entre vous va répondre 10 ou 20, 30 pour les plus optimistes. Ce sont en fait environ 60 espèces qui ont été trouvées lors des deux premiers atlas, dont on peut considérer qu'une cinquantaine sont présentes chaque année. Et pour le Grand Paris, c'est-à-dire Paris, les trois départements de la Petite Couronne et quelques communes supplémentaires, on est arrivé à 110 espèces nicheuses. Quand on fait le travail deux fois à 10 ans d'intervalle pour Paris, on a pu constater l'évolution des espèces parisiennes. Certaines, comme le moineau domestique, la citelle ou l'hirondelle de fenêtre, ont beaucoup diminué. D'autres, comme la plupart des espèces des parcs et jardins, ont nettement augmenté, sans doute grâce à la disparition de l'usage des pesticides. Cela permet aussi de proposer aux autorités des mesures qui vont faciliter le maintien, voire permettre le développement de la vie faune en ville. C'est pourquoi les 90 bénévoles de la LPO Île-de-France qui participent à ce beau projet viennent de reprendre avec enthousiasme la deuxième année de ce travail de terrain.
Et comme souvent, nous clôturons maintenant ce « À tire d'aile » par l'espèce du mois. Après nous avoir parlé du faucon pèlerin, Frédéric Malère nous parle ce mois-ci de son petit chouchou printanier, un sacré mélomane.
Dans la série des débats sans fin, il y a, chez les ornithologues, la question de l'espèce qui chante le mieux. C'est évidemment très subjectif, mais pour les oiseaux de chez nous, le débat se circonscrit en général entre la grive musicienne, le merle noir et la fauvette à tête noire. Autour de la Méditerranée, on y ajouterait évidemment le chardonneret. Certains pourront s'étonner de l'absence dans cette liste du rossignol. Si son chant donne une ambiance particulière aux douces nuits d'avril-mai, il est en fait assez stéréotypé et tous les rossignols chantent à peu près de la même manière. Alors que pour les autres espèces que j'ai citées, il y a de grosses variations individuelles et il y a des individus bons chanteurs et d'autres moins bons. Cela permet même de reconnaître son merle habituel d'un merle de passage. Personnellement, j'ai un faible pour la fauvette à tête noire, juste devant le merle. Il est assez difficile de décrire son chant, qui commence en général un peu n'importe comment, avec des gazouillis souvent précipités qui font qu'on peine parfois à la reconnaître et qu'on hésite avec d'autres espèces. Puis il prend une ampleur un peu inattendue, des notes chaudes et flûtées qui la font reconnaître et qui mènent à un forté final. Comme si cela ne suffisait pas, c'est une imitatrice hors pair. J'en connaissais une qui commençait toujours son chant par des notes de rouge-queue à front blanc qui me piégeaient à chaque fois pendant quelques secondes. J'ai pu ainsi la reconnaître 3 années de suite. Une autre imitait à la perfection des phrases entières de Rousserolles et Farvat, une sorte de fauvette des roseaux. La fauvette à tête noire est avec le pinson l'espèce la plus abondante en France. Elle se retrouve sur l'ensemble du territoire où elle peuple forêts et bocages, parcs et jardins. On la trouve de plus en plus en ville. À Paris, elle niche dans près de 90% des carrés d'Atlas, là où elle n'en occupait que 60% il y a 20 ans. Elle avait bien profité du calme des rues pendant le confinement, mais a dû abandonner la plupart de ses conquêtes éphémères lors du retour de l'activité bruyante des humains. En fait, son nom fait référence au plumage du mâle, dont la tête s'orne effectivement d'un béret noir, alors que la femelle a une casquette brune. Le reste du corps est d'un joli gris souris. Au printemps, l'espèce est essentiellement insectivore, mais dès l'été et pendant tout l'automne, elle apprécie beaucoup les petits fruits des arbustes, comme le cornouiller, l'aubépine ou le sureau. Les quelques-unes qui restent en hiver apprécient beaucoup les baies de lierre qui ont l'avantage de mûrir très tard et d'être encore disponibles en décembre-janvier. J'ai déjà eu l'occasion de signaler l'importance du lierre grimpant pour les oiseaux. La plupart des fauvettes à tête noire quittent nos contrées en automne pour descendre autour de la Méditerranée, sans toutefois atteindre le Sahara. Cela en fait un migrateur à courte distance, même si certaines font quand même plus de 2000 km pour rejoindre leur zone d'hivernage. Un phénomène curieux a été remarqué il y a une vingtaine d'années. Les fauvettes du sud de l'Allemagne qui partaient normalement en migration vers le sud-ouest, se sont mis à migrer vers le nord-ouest pour hiverner en Angleterre. Modification due au hasard ou à une mutation, la chance a voulu que le climat anglais et surtout la nourriture des mangeoires soient assez favorables. Et cette habitude s'est maintenue car elle raccourcissait notablement le voyage. Comme elles reviennent plus tôt, elles se reproduisent avant les autres et maintenant, les hivernantes anglaises et méditerranéennes forment deux groupes séparés qui ont développé des caractéristiques génétiques différentes. Le gros des troupes revient début mars. C'est à cette période qu'elles font éclater leurs champs pour marquer leur territoire face à la concurrence. C'est donc la meilleure période pour profiter de celle que je tiens pour une des plus grandes mélomanes de nos espèces communes. Elles vont construire leur nid en coupe, avec une armature de brindilles rembourrée par de la mousse, dans un arbuste touffu. Les jeunes s'envoleront en général en mai, se faisant remarquer par des cris grinçants qui doivent les signaler à leurs parents quand ils sont cachés dans les frondaisons. Pendant le reste de l'été, elles ne se signalent plus guère que par son cri sec, un peu comme deux cailloux que l'on choque. Elle va se gaver d'insectes et de fruits pour stocker de la graisse qui lui servira de carburant pour le voyage à venir. Et c'est discrètement qu'elle partira de nuit pour une destination hivernale plus accueillante. À la prochaine, et d'ici là, ouvrez grand vos yeux et surtout vos oreilles.